Les enfants de Chronos. Bonjour à tous, chers auditeurs. C'est moi qui vous parle, Nicolas Bilot, archéologue. Aujourd'hui, une petite notice d'histoire et d'architecture sur le château de Clermont, Clermont de l'Oise. Sur l'éminence que constitue la butte de Clermont, comme une gardienne de la frontière entre pays de craie et pays de calcaire, entre pays picard et pays français, comme on le disait autrefois, se dresse la tour de Clermont, le donjon, marqueur du chef-lieu du comté. Il est classé monument historique depuis 1950. Bâti au début du XIIe siècle, peut-être vers 1110, mais malheureusement les sources écrites manquent, cette tour maîtresse fut visitée par de nombreux rois de France jusqu'au milieu du XIIIe siècle, lorsque Saint-Louis en fait don, ainsi que le comté, à son sixième fils Robert. Celui-ci se maria à Béatrice de Bourgogne et sont ensemble les lointains ancêtres des rois de France Bourbon des XVIIe et XVIIIe siècles. Le château tombe cependant en disgrâce aux yeux des comtes de Clermont au cours de la guerre de Cent Ans et ne sera plus visité que très occasionnellement par leurs seigneurs et maîtres jusqu'à la Révolution. Pourtant, l'édifice est toujours le lieu d'événements importants. En 1359, le terrible premier captal de Bouche, mercenaire au service de Charles de Navarre, celui que les historiens surnomment aujourd'hui Charles le Mauvais, s'empare du château pour son maître. Si l'on s'en tient à ce que raconte le chroniqueur Jean Froissart, le captal de Bouche détruisit la collégiale castrale. Cet édifice d'architecture romane, une église, fut fondé par le premier comte, Renaud II, et dédié à Saint Arnoux. La dédicace à Saint Arnoux n'est peut-être pas innocente, puisque Renaud était marié à Alix. Alix était la sœur de Simon, et Simon était le comte du Valois. Bien entendu, parmi vous, ceux qui connaissent un petit peu Crépy, se souviennent qu'il y a dans cette ville le prieuré Saint-Arnoux, prieuré clunisien, et celui-ci a été largement apprécié par Simon, comte de Valois. Simon a d'ailleurs eu une vie un petit peu curieuse. Au départ, cadet de famille, il n'était pas appelé à régner, mais se retrouve finalement au pouvoir quelques années, puis, après un pèlerinage, se constituera ermite et sera même canonisé comme étant Saint-Simon. Il se trouve que ce grand personnage était un actif soutien de Saint-Arnoul de Crépy, et que certainement sa sœur et Renaud, son mari, ont dû être influencés pour créer cette collégiale dédiée elle aussi à Saint-Arnoul, à Clermont. Quoi qu'il en soit, lorsque le parti navarrais quitte le pays de Clermont, 4 ans plus tard, en 1363, la ville est exsangue. Entre 1423 et 1450, le château changera même 5 fois de main, passant des Français aux Bourguignons puis aux Anglais, et a vraisemblablement encore bien fait son office de place forte. Quelques travaux ont encore lieu au début du XVIe siècle, et le château conservera une petite fonction militaire au cours des guerres de religion à la fin du même siècle. Il est pris une première fois par Henri IV en 1589, le premier roi Bourbon dont nous parlions tout à l'heure, est repris par les ligueurs du duc de Mayenne, puis à nouveau par les troupes royales en 1590. En 1703, le château est définitivement démilitarisé avec l'autorisation du Conseil d'État et la nouvelle propriétaire, Françoise de Branca, princesse d'Harcourt, décide, selon un courrier officiel, d'en faire une habitation. Alors le donjon de Clermont, au Moyen-Âge, est d'abord une tour rectangulaire très puissante, de 25,5 mètres de côté sur 17,50, haute d'une trentaine de mètres initialement. À notre connaissance, il est donc l'un des plus vastes donjons quadrangulaires au nord de la Seine, bien avant, par exemple, la grosse tour de Senlis dont nous avons déjà parlé. De là-haut, dit-on, nos yeux se poseraient sur une trentaine de paroisses distinctes et complètes. Ces murs sont épais de 3,50 m, ce qui est encore raisonnable et à nouveau globalement similaire à ce que l'on peut observer sur ce type d'édifice. Ces mêmes murs sont épaulés de 12 contreforts caractéristiques, plutôt plus fins que ceux observés habituellement sur ce type d'édifice, qui constitue la première génération des châteaux de pierre. Sa première enceinte est mal connue, mais une seconde est rebâtie en 1351 et reste distincte de celle de la ville. C'est un château en ville, un château de ville, mais un château indépendant. Puisque la collégiale Saint-Arnoux était tangente à l'enceinte, son chevet était lui également partiellement fortifié et participait à la défense. Un autre point à propos du donjon lui-même, il comportait à l'origine une tour hors œuvre, c'est-à-dire une tour externe, visible de l'extérieur, dans l'esprit, si vous voulez, de ce qu'on a connu au XXe siècle lorsque les buildings construisaient leur ascenseurs hors œuvre, c'est-à-dire visibles depuis la rue. Cette tour abritait un escalier en vis, disposition peu courante encore à l'époque de l'érection de la tour. Le principe de cet escalier était similaire à celui que l'on peut encore voir à la Tour de Londres. Plus proche mais disparu, on trouvait la même particularité à Beaumont-sur-Oise. Un des derniers exemples existe dans notre territoire du Grand Valois, au château de Montmélian à Saint-Vitz. Même si ici la tour d'escalier est presque disparue à cause de la poussée d'un grand arbre. C'est assez rare cette disposition de tour-escalier hors œuvre dans des châteaux du XIIe siècle. Tout l'intérêt de la tour de Clermont est de permettre, dans un territoire où ont globalement disparu la plupart de ces donjons que les historiens de l'art ont surnommés donjons romans, de se figurer ce qui fut le symbole de la mutation sociétale des XIe et XIIe siècles dans la noblesse. Les seigneurs, de plus en plus puissants, ont cherché à manifester leur pouvoir dans des grandes constructions, et le dessein avoué était de rendre la pareille au clocher des églises, de constituer dans la pierre un symbole du contre-pouvoir. Ainsi ont-ils parfois privilégié l'édification de mottes castrales, et d'autres fois plutôt l'érection de tours-résidences. C'est ce second choix qui fut fait à Clermont au début du XIIe siècle. Correspondait-il au schéma classique de disposition intérieure? Il est difficile aujourd'hui de le dire, car l'analyse du site est peu évocatrice. Il est tentant cependant de calquer le schéma traditionnel, en gardant à l'esprit ce que cela implique de simplification. Alors reprenons. À Clermont, pas de cave apparemment, mais au rez-de-chaussée, un niveau de service et un niveau de stockage en cellier. Au premier étage, l'entrée. Ce qui peut paraître curieux, puisque l'on entre directement à 5 mètres au-dessus du sol, mais l'entrée était desservie par un escalier droit et ouvrait ainsi directement sur la plus belle salle de la tour, la grande salle. Les textes en latin auraient dit « l'aula », c'est-à-dire l'espace public ou semi-public de site, le lieu où le seigneur reçoit. Au deuxième étage, peut-être un espace intermédiaire, semi-privé, semi-public, où les comtes recevaient plus intimement et où étaient logées leurs familles ainsi que les invités de marque. Et au troisième et dernier étage, au-dessus de tous et au plus près des cieux, les appartements du comte lui-même, probablement sous une charpente, peut-être agréée d'une voûte en berceau lambrissé. À n'en pas douter, l'ensemble devait être magnifique, décoré, vivant, encore une fois moins militaire que résidentiel et ostentatoire. En ce sens, à nouveau, le château de Clermont est moins un château fort qu'un château-palais. Quoi qu'il en soit, la silhouette de la maîtresse-tour de Clermont a beaucoup évolué. Tout d'abord, la princesse d'Harcourt, entre 1704 et 1708, a fait éclairer ses nouveaux appartements de 46 grandes fenêtres rectangles à menuiserie, typiques du XVIIIe siècle, et répartie sur les quatre niveaux. Aux abords, elle a fait combler les fossés du château, et les anciennes cours sont converties en promenades plantées d'arbres, selon la mode du temps. Mieux, la princesse a fait vraisemblablement refonder la collégiale en chapelle, qui sera consacrée en 1714, l'année qui précède son décès. Ensuite, c'est le château qui est confisqué par la République en 1791, et converti en maison de détention pour les prisonniers de guerre et les malfrats du Clermontois. En 1826, il devient même une célèbre prison de femmes, ce qui sera l'occasion de nouvelles profondes modifications de la construction et de l'adjonction de trois bâtiments. C'est ici, au donjon de Clermont, que sera emprisonnée Louise Michel, avec ces fameuses pétroleuses de la commune, avant leur jugement et leur déportation au bagne. La prison est fermée en 1903. Un bombardement de 1944 fait s'effondrer l'angle nord et son quasi-abandon au milieu du XXe siècle a conduit à son effondrement partiel en 1968, aggravé encore en 1984. Le site a depuis été restauré. Et s'il n'est pas tout à fait possible de s'approcher du pied de l'édifice, il n'en reste pas moins la conclusion idéale d'une promenade dans les rues et le parc de Clermont, où bâtis anciens, rues pavées, paysages évocateurs et toponymies se conjuguent pour une invitation au voyage dans le temps.